l'alternative de Foucault ou même l'alternative Foucault. Mon but, assez général, sera finalement d'essayer de montrer aujourd'hui dans Michel Foucault le penseur d'une alternative, d'une alternative que je pourrais même dire radicale, mais pas tout à fait ou pas seulement celle que l'on croit d'habitude, que l'on croit le plus souvent. En effet, pas seulement en tout cas l'alternative que Foucault, en un certain sens, incarnerait, figure de Foucault incarnerait, s'il y avait une alternative entre Foucault et autre chose, il y avait seulement une alternative, il y a aussi cette alternative, une alternative entre Michel Foucault et ce qu'il critique, ce dont il nous libère aussi, et parfois d'un simple coup d'épaule et avec un grand rire. De fait, à mes yeux, Foucault n'est jamais seulement, mais il est aussi, évidemment, le penseur d'une telle alternative, c'est-à-dire le penseur d'une alternative entre deux termes extérieurs d'une relation qui serait elle-même extérieure. Par exemple, le penseur d'une alternative, c'est là que trouve le thème de l'après-midi, entre la vérité et le pouvoir, on pourrait même dire la vérité et ou le pouvoir, entre le pouvoir et la vie, le pouvoir et ou la vie, comme si entre ces deux termes d'une relation dès lors pensée comme extérieure, on pouvait et on devait en quelque sorte choisir. Ce qui me frappe désormais, c'est ce que je voudrais essayer d'interpréter avec vous aujourd'hui, c'est que Foucault est peut-être aussi, sinon d'abord, le penseur d'une alternative, non pas entre des termes extérieurs d'une relation, non pas entre des termes d'une relation, mais entre des formes d'une relation, entre des formes diverses d'une relation dont, en tant que telle, en un certain sens, on ne peut évidemment pas sortir. Comme s'il s'agissait de choisir entre deux termes, on ne peut peut-être pas choisir la relation, ni sortir de la relation. Relation qui pourtant, et c'est l'alternative, l'autre alternative que Foucault nous propose en quelque sorte, relation qui a pourtant constitutivement, je dirais selon lui, et parfois grâce à lui, plusieurs formes, plus d'une forme aussi, pourrait-on dire en empruntant une formule à un de ses contemporains, plus d'une forme. Et par exemple, plus d'une forme dans la relation entre la vérité et le pouvoir, entre le pouvoir et la vie. Non pas donc une alternative entre des termes extérieurs, mais entre des formes d'une relation, en quelque sorte toujours inévitable et qui a quelque chose de structurel, et par là même une alternative pourtant, je dirais, qui n'est pas moins radicale, ni même utile et nécessaire, utile j'entends au sens aussi des usages, qu'il est peut-être même d'autant plus radical et d'autant plus ouverte à des usages divers, je rejoindrai aussi la question des usages, pour nous, je dirais, aujourd'hui. Alors, faute de pouvoir, bien sûr, démontrer cette thèse générale dans tout le détail nécessaire, j'esquisserai dans ce qui suit, dans le temps imparti, très inégalement, quatre points, quatre exemples de cette alternative ouverte par Foucault, ou de cette alternative dans laquelle Foucault nous place. Quatre exemples, quatre points, respectivement sur deux aspects qu'on pourrait dire théoriques, deux formes d'une relation théorique. Ce sont celles d'ailleurs que je viens d'évoquer très rapidement. Je vais les reprendre un tout petit peu plus en détail. Ce sera évidemment très rapide. Et deux autres alternatives qui ont elles-mêmes chacune, disons, plusieurs formes, les autres relations dans lesquelles s'inscrivent des alternatives, qu'on pourrait dire plus méthodologiques, portant finalement sur l'histoire des formes de ces relations, à supposer qu'on puisse distinguer chez Foucault des hypothèses qui portent sur le contenu et d'autres qui portent sur la méthode, des hypothèses qui portent sur les diverses formes théoriques d'une relation et d'autres qui portent sur les diverses formes historiques d'une relation, cette distinction étant en réalité d'une certaine façon infaisable chez Foucault, je ne sais pas pourquoi je dis Rousseau, dans la mesure même où, précisément, l'alternative, la variation des formes des relations constitutives de notre expérience, est toujours à la fois théorique et historique. Et néanmoins, je distinguerai deux aspects, un aspect plus théorique et un aspect plus historique. Et en conclusion, je reviendrai sur les usages qui me semblent pouvoir aussi être ouverts par Foucault, par ses alternatives foucaldiennes dans le moment présent, aujourd'hui. Je commencerai donc par une première alternative que je ne commenterai en réalité que d'un mot. Enfin, la plupart des sujets dont je vais traiter, d'ailleurs, je le dis au passage, ce n'est pas des formules de rhétorique, ont été bien mieux étudiés dans les journées précédentes et dans les travaux aussi des différents intervenants de ce colloque. Hein, je suis gêné d'en présenter des lectures si rapides, mais néanmoins, je voulais en proposer la silhouette d'ensemble. Hein. Je ne ferai donc qu'évoquer d'un mot la première alternative devant laquelle nous place, à mes yeux, Michel Foucault. Première alternative qui est aussi, en un sens, la dernière dont il ait parlé, si l'on peut dire, mais qui a traversé, évidemment, toute son œuvre, et qui est peut-être, je n'ose pas dire, la plus importante, car il ne s'agit pas de remonter à un fondement, mais qui, néanmoins, en un certain sens, probablement détermine toutes les autres. Et d'ailleurs, je la retrouverai aussi, évidemment, on pourrait la retrouver dans chacune des autres, et je la retrouverai aussi en concluant. Cette alternative, en quelque sorte, c'est celle de la vérité et du pouvoir. La vérité et du pouvoir. On croit souvent, en effet, hein, je rappelle ici des évidences, on croit que Foucault les oppose d'une manière simple ou simpliste. Comme s'il s'agissait de choisir une idée unilatérale de la vérité, d'un côté, et de lui opposer une idée du pouvoir non moins simple et unilatérale de l'autre. Certes, et ça fait partie des alternatives critiques, radicales de Foucault, et qu'il faut certes maintenir, certes, Foucault critique l'idée d'une vérité qui serait indépendante comme telle d'une pratique et d'une relation de pouvoir. En ce sens, il y a bien une alternative, d'abord, entre des théories qui pensent la vérité comme un caractère purement logique, hein, purement théorique, et d'autres qui lient la vérité à des pratiques humaines, ces relations de pouvoir, celles qui lient finalement les comportements des hommes entre eux. Hein. Je reviendrai tout à l'heure sur l'une des définitions du pouvoir qu'on trouve chez Foucault, si j'ai le temps. Mais si Foucault part de cette alternative théorique radicale, qui, d'une certaine manière, est quand même au cœur d'un débat philosophique du XXe siècle, et même du XIXe, à partir de Nietzsche, on pourrait dire, ce n'est pas pour nous proposer une alternative simpliste entre les tenants de la vérité et ceux du pouvoir. Ce que nous montre, je suis obligé d'aller très vite, ce que nous montre notamment les tout derniers cours de Michel Foucault, hein, c'est pour ça que je dis que c'est un des derniers sujets dont il a parlé, les cours donc sur le courage de la vérité, ce que nous montrent les tout derniers cours de Foucault est tout à fait différent. Et tout se passe, pour moi en tout cas, lecteur un peu extérieur de Foucault, tout se passe comme si ces cours étaient apportés aussi comme une pièce qui manquait au puzzle de la pensée de Foucault et qui lui donne une certaine figure. Tout se passe comme si, s'il y a un courage de la vérité, s'il y a un courage de la vérité, dans le franc-parler, dans la paresia, c'est bien parce que la vérité n'est pas seulement pour Foucault ce sur quoi s'exerce un pouvoir, ce qui est marqué par le pouvoir, mais aussi ce par quoi l'on résiste au pouvoir. Et dans les deux cas, dans la prise du pouvoir sur la vérité, comme dans la résistance au pouvoir par la vérité, en mettant en jeu sa subjectivité dans ce qu'elle a de plus corporel et sa vie, la subjectivité de celui qui est concerné, on pourrait dire, par la vérité des deux côtés de cette relation du pouvoir et de la vérité. Ainsi, dans la relation même entre pouvoir et vérité, bien plutôt que dans l'opposition externe entre vérité et pouvoir, il y va d'une polarité extrême et radicale, d'une alternative qui est tout autre chose qu'un choix, une alternative qui est tout autre chose qu'un choix, au sens où un choix présupposerait une subjectivité qui aurait à choisir entre subir une vérité qu'on lui impose et parler librement, courageusement sur la scène publique, une alternative plutôt qui détermine les formes mêmes de la subjectivité, entre assujettissement et subjectivation, pourrait-on dire, qui détermine aussi les relations entre subjectivité et finalement le monde même, l'espace où apparaît la question de la vérité. La vérité apparaît ainsi comme l'espace même de la relation de pouvoir, déterminée entre ces deux relations, finalement, celle du pouvoir sur des sujets, mais aussi celle par lesquelles des sujets résistent au pouvoir. Elle ouvre, d'une manière qu'il faudrait approfondir, mais qui me paraît fondamentale, elle ouvre ou elle s'ouvre dans la dimension du rapport de pouvoir, comme un rapport aussi à soi-même et au monde, et surtout comme un rapport prenant la forme d'une alternative, un rapport qu'on pourrait dire tendu ou polarisé, ce qui la constitue aussi comme vérité, dans la concurrence, dans la confrontation aussi des discours. Tel est le premier point que je voulais souligner, qu'il faudrait approfondir encore beaucoup plus, mais qui me paraît fondamental, c'est que finalement, la relation même entre vérité et pouvoir est polarisée de l'intérieur et devient sous cette forme seulement et finalement une véritable relation entre vérité et pouvoir. Je ne peux pas y entrer plus avant et je voudrais venir tout de suite au deuxième point qui, à mes yeux en tout cas, n'est pas moins important, qui, en tout cas, est, à mes yeux, au cœur d'un usage contemporain aussi de Foucault dans le moment présent, parmi d'autres. Et il s'agit, en un sens, évidemment, bien entendu, pourrait-on dire, là aussi, c'est un thème qui a traversé tout le colloque, des relations entre le pouvoir et la vie. Et finalement, entre les deux formes extrêmes qu'il a pu prendre dans la pensée de Foucault, qu'a pu prendre cette relation entre le pouvoir et la vie dans la pensée de Foucault, d'une part, comme savoir, puis comme pouvoir médical, comme pouvoir sur la vie, dont les différentes formes, j'y reviendrai, ont évolué historiquement, dont la différence historique est un élément caractéristique, menant jusqu'à la thèse du biopouvoir dans les années 70, mais aussi dans cette relation entre le pouvoir et la vie, conduisant finalement dans un écart que je voudrais déterminer trop brièvement dans un instant, à un usage de ce pouvoir sur la vie qui prend la forme d'un usage des plaisirs, d'un soin ou d'un souci de soi et de ses relations, et de ce que Foucault appelle dans ses deux derniers livres, comme dans les derniers cours, une esthétique de l'existence, entre le biopouvoir donc et une esthétique de l'existence. Il faudrait bien sûr ici être très précis, beaucoup plus que je ne peux l'être, pour montrer comment, de la naissance de la clinique en 1963 jusqu'à l'usage des plaisirs et le souci de soi en 1984, en passant par les textes et les livres intermédiaires, dont La volonté de savoir, que je vais citer tout à l'heure, Foucault construit non seulement une critique, disons, d'un rapport immédiat à la vie. Par exemple, dans le cas de la médecine, la critique du colloque singulier entre le médecin et le malade, qui déterminerait une forme naïve du soin, mais une double critique, et finalement une alternative, qui me semble dépasser ou déborder la question du soin naturel ou immédiat, à la fois, on pourrait dire, non pas par le haut et par le bas, parce que tous les deux côtés, on pourrait dire, sont bas, aucun n'est... Enfin, en tout cas, les deux côtés sont bas et haut, en tout cas, qui me semble déborder deux fois, en tout cas, la figure naïve d'un rapport immédiat entre les vivants qui prendrait notamment la forme du rapport médical ou de la relation de soins. C'est cette double critique qui ouvre à mes yeux, là aussi, une alternative interne à la relation entre le pouvoir et la vie, à mes yeux radicale et décisive. Bien sûr, la médecine, le rapport naïf, le colloque singulier, sur lequel Foucault ironise évidemment au début de la naissance de la clinique, le colloque singulier du médecin et du malade, se voit d'abord substituer les différentes formes historiques du savoir puis du pouvoir sur la vie, que la médecine, bien loin de les fonder sur une norme supposée naturelle ou vitale, comme c'est quand même le cas chez Canguilhem, incarne bien plus tour à tour dans ces figures historiques. Mais d'un autre côté, ce rapport naïf, ce rapport apparemment immédiat du pouvoir et de la vie dans le cadre du rapport de soins, de la relation de soins, est débordé d'une toute autre façon, qui s'annonce déjà à la fin de La volonté de savoir, le premier tome donc, de l'histoire de la sexualité. Elle ne consiste pas, on le sait, dans une sortie de la relation entre le pouvoir et la vie, mais dans son renversement interne. Il faut évidemment ici citer cette phrase célèbre de Foucault, nous montrant qu'on ne peut pas finalement sortir du rapport, on pourrait dire biopolitique, du rapport entre le pouvoir et la vie, prenant la forme biopolitique dans l'époque contemporaine. On ne peut pas en sortir pour aller vers un supposé désir libéré de toute répression. Il faut citer cette phrase célèbre dans La volonté de savoir. « Contre le dispositif de sexualité, écrit Rousseau, le point, Foucault, décidément, pardon, le point d'appui de la contre-attaque, contre-pouvoir pensé comme contre-attaque, le point d'appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe désir, mais les corps et les plaisirs. » Dès lors, là aussi, l'alternative n'est pas entre le rapport du pouvoir à la vie et l'échappée de la vie hors de tout pouvoir, mais dans un renversement du rapport, évidemment, du pouvoir et de la vie elle-même. Renversement qui prend la forme d'un décalage historique, sur lequel je vais insister tout à l'heure, mais aussi, évidemment, d'un débordement théorique. L'usage des plaisirs, qui me paraît un livre absolument fondamental, à tous égards. L'usage des plaisirs dégagera l'idée d'un soin dont Foucault montre qu'il déborde lui aussi, mais tout autrement, le soin proprement médical, et constitue plutôt une subjectivation critique, ce qu'il appelle un art de l'existence. Je cite, là aussi, l'usage des plaisirs, page 123, « La pratique du régime comme art de vivre est bien autre chose qu'un ensemble de précautions destinées à éviter des maladies ou à achever de les guérir. C'est toute une manière de se constituer comme sujet. » Ou encore, page 156, le régime physique des plaisirs et l'économie qu'il impose font partie de tout un art de soi. Ainsi, d'une certaine façon, donc, le rapport naïf entre les vivants, qui ferait abstraction du pouvoir, est débordé d'un côté par le biopouvoir comme tel, de l'autre côté par la subjectivation, disons, d'un sujet qui prend la forme d'un soin de soi, d'un souci de soi qui est tout à fait différent, qui est un gouvernement de soi-même, une technique de soi-même, tout à fait différente dans sa structure même d'un rapport au vivant ou au vital comme tel. Certes, on va y revenir, cette histoire est plus compliquée encore. Et de même que Michel Foucault décrit un basculement progressif dans la naissance de la clinique et dans la volonté de savoir, le basculement qui tournant du XIXe siècle, de même, dans les deux livres « L'usage du plaisir, des plaisirs et le souci de soi », il décrit aussi un basculement progressif, une tension interne à l'Antiquité comme telle. Le passage, finalement, des arts de l'existence du Ve siècle avant Jésus-Christ, disons, de l'Antiquité contemporaine de Platon, jusqu'à la forme qu'elle prend au bord extrême de l'Antiquité, on pourrait dire à l'Antiquité tardive, au moment de l'entrée en scène, avant l'entrée en scène du christianisme, à la fin du souci de soi. J'insisterai dans un instant sur la manière dont ces livres de Foucault décrivent aussi des histoires, presque narrativement, des histoires critiques, des évolutions critiques à l'intérieur même d'un modèle. Cependant, pour l'instant, l'essentiel pour moi consiste dans cette polarité extrême qui déborde deux fois le rapport naïf au corps et le rapport entre les vivants, qui donc dessine une alternative nous permettant un double usage critique de Foucault lui-même, hein, un double usage critique pour critiquer deux fois toute réduction de ses fonctions, de ses relations aussi à donc les formes et les normes qui leur sont aujourd'hui le plus souvent attribuées. Je dirais donc qu'il faut faire usage de ces deux concepts foucaldiens de la clinique d'un côté, de l'art de l'existence de l'autre, pour rendre toute sa portée, pour prendre dans toute sa force les questions mêmes qu'il situe finalement entre ces deux pôles, d'ailleurs séparés, qui sont aussi les deux pôles même de l'histoire de la sexualité. Mais j'en viens maintenant à un troisième aspect. Troisième aspect qui n'est bien sûr, lui non plus, pas le moins important. Je dirais qu'aucun des trois n'est le moins important, et qui est au cœur des discussions avec et autour de Foucault, sur la philosophie du XXe siècle en France, et même au-delà, je dirais au-delà du XXe siècle et au-delà de la France. Ce troisième aspect, ou cette troisième opposition, qui nous fait entrer dans la question historique, c'est l'opposition du concept et du sujet, philosophie du concept, philosophie du sujet ou de la conscience. Je voudrais ici simplement résumer la lecture détaillée qu'il me semble nécessaire de faire, que j'ai esquissée ici ou là, mais que je vais seulement résumer ici, du dernier texte publié par Michel Foucault en France, ou donné par Michel Foucault à la publication en France, à savoir, bien entendu, la reprise de son hommage à Canguilhem, publié en janvier 85, juste après sa mort, dans la revue de Métaphysique et de Morale, sous le titre « La vie, l'expérience et la science ». Texte là aussi qui a été évidemment plusieurs fois évoqué. Je soulignerai simplement trois points là aussi, beaucoup trop rapidement. C'est d'abord que, évidemment, l'opposition principale, l'alternative principale, qu'il ne s'agit évidemment pas pour moi de contester, hein, et qui est radicale et qu'il importe de maintenir, comme dans les deux cas précédents, l'alternative principale introduite par Foucault porte, comme vous le savez, sur l'existence dans la philosophie française de deux grandes lignes théoriques, les philosophies du sujet ou de la conscience, les philosophies de la science et du concept. Oui, mais, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, dans cet hommage à Georges Canguilhem, de quel concept exactement s'agit-il ? S'agit-il du concept que Canguilhem lui-même affronte dans la biologie de la fin des années 60, d'un concept conçu sur le modèle des catégories linguistiques, la métaphore du langage et du code, le concept qui est à l'œuvre dans la logique du vivant. En réalité, Foucault, s'appuyant sur Canguilhem, nous ramène à un concept qui est issu des pratiques polarisées du vivant lui-même dans son milieu, un concept dont Foucault montre la généalogie chez Canguilhem et chez Nietzsche, un concept qui, lui-même, comporte une polarité ou une alternative, une polarité ou une alternative interne entre la vérité et l'erreur, de telle sorte que c'est finalement l'opposition entre vérité et erreur qui est le propre de cette philosophie du concept-là, qui redevient une philosophie subjective du côté du concept, le sujet n'étant pas réservé finalement à la conscience, à la phénoménologie, à la profondeur du vécu. Je cite une formule de cet article. Si on admet que le concept, c'est la réponse que la vie elle-même a donnée à cet aléa, c'est-à-dire à son évolution, il faut convenir que l'erreur est la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire. L'opposition du vrai et du faux, hein, très important, les valeurs qu'on prête à l'un et à l'autre, les effets de pouvoir que les différentes sociétés et les différentes institutions lient à ce partage, tout cela n'est peut-être que la réponse la plus tardive à cette possibilité d'erreur intrinsèque à la vie. Alors évidemment, ce texte pose un problème d'interprétation. Qui parle ici ? Est-ce Canguilhem, commenté par Foucault ? Est-ce Foucault s'appuyant sur Canguilhem ? Le texte est indécidable à cet égard, mais ce qui est réintroduit en tout cas, c'est la possibilité d'une alternative et d'une polarité dans la philosophie du concept, s'opposant ainsi non seulement à la philosophie de la conscience, mais à la philosophie d'un concept purement logique, statique, en quelque sorte sans histoire. C'est précisément cette polarité critique du concept du vivant, en quelque sorte, qui réintroduit aussi l'idée d'histoire pour laquelle Foucault rend hommage à Canguilhem. Foucault réinscrivant Canguilhem dans la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» sur laquelle s'ouvre aussi ce texte, dans le rôle de l'histoire, dans le diagnostic du présent. Là aussi, c'est une alternative devant laquelle nous nous plaçons, une alternative dans l'interprétation politique des effets du concept. La citation que je viens de faire allait déjà dans ce sens. Je le cite là aussi au début du texte sur Canguilhem, cette fois. C'est une citation qu'il faut rappeler, qui introduit une alternative, cette fois, non pas entre les lumières et ce qui va suivre, mais à l'intérieur des lumières elles-mêmes. Il y a une alternative dans le moment des lumières. Je cite Foucault. « Deux siècles après son apparition, l'Aufklärung fait retour. À la fois, comme une manière... à la fois comme une manière pour la raison, pour l'Occident, de prendre conscience de ses possibilités actuelles et des libertés auxquelles il peut avoir accès, mais aussi comme une manière de s'interroger sur ses limites et les pouvoirs dont il a usé. La raison, à la fois comme despotisme et comme lumière. À la fois comme despotisme et comme lumière. L'alternative n'est plus entre une philosophie naïve des Lumières et une philosophie critique qui verrait le masque d'un pouvoir. L'alternative est au sein des Lumières elles-mêmes, entre despotisme et lumière, entre pouvoir et liberté. Cela nous conduirait à comprendre, au fond, à réinterpréter ce moment historique central sur lequel Foucault a finalement le plus écrit, depuis la naissance de la clinique, qui suit un mouvement de 1780-1815 environ, jusqu'à la volonté de savoir, en passant évidemment par les mots et les choses en 1966. Mais cette polarité interne à ce moment des Lumières, à ce basculement du XIXe siècle, à ce tournant de 1800, me conduit à mon tout dernier point, qui porte cette fois sur les moments, c'est-à-dire l'interprétation de l'histoire elle-même, sur les moments et les épistémés. Donc on a eu vérité et pouvoir, vie et pouvoir, concept et sujet, et finalement l'interprétation de l'histoire elle-même. Ici aussi, bien entendu, je vais aller très vite. Il faut commencer avec Foucault, et je pense qu'ici aussi, il faut cet usage de Foucault d'abord, qui consiste à marquer la première alternative. Il faut commencer par marquer des ruptures. Foucault est, comme l'ont montré aussi bien Mathieu Pot-Bonneville que Judith Revel récemment, et beaucoup d'autres, mais d'une manière très forte dans ces deux lectures, Foucault est le penseur de la discontinuité extérieure, radicale, et c'est seulement par la relation entre les différences entre les moments et les formes des relations fondamentales de nos vies, différence des formes historiques des catégories de notre expérience, que nous nous accédons à nous-mêmes. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est, comme je l'ai déjà indiqué d'un mot, les tensions internes aussi, les alternatives intérieures introduites par Foucault dans les moments même qu'il étudie, et notamment dans les moments de transition, ces moments de basculement, en quelque sorte. Ainsi, dans le moment, très finement étudié, évidemment, dans la naissance de la clinique, ou dans les mots et les choses, mais aussi, je crois qu'il faudrait le lire de très près, entre les deux volumes de l'usage des plaisirs et le souci de soi. Foucault étudie d'une manière très fine et très implicite, très allusive, la manière dont un certain art de soi, une certaine technique de soi, est soumise à un certain glissement, disons de Platon à Sénèque, disons de l'Alcibiade aux lettres à Lucilius, et anticipant sur la moralisation chrétienne des plaisirs qui marquera une rupture encore plus radicale et que Foucault, au seuil de laquelle évidemment Foucault s'est arrêté. Il en irait de même pour suivre dans la naissance de la clinique le passage de la médecine des espèces à la médecine des espaces, des hospices à la clinique elle-même, et déjà en un sens du souverain au gouvernement, pouvoir souverain au biopolitique. Ce qui m'intéresse, ce sont donc aussi ces tensions internes dans le moment même où s'anticipent de manière plus ou moins immanente et réfléchie, non seulement implicite dans les sous-sols des savoirs, mais déjà explicite dans les théories et les pratiques, un problème tendu en quelque sorte qui définit ce moment de transition comme tel. La question que je poserai à Foucault est alors la suivante. Y a-t-il en deçà et au-delà de ces moments de transition et de rupture et de problématisation, y a-t-il réellement des épistémés qui déploient ensuite les conséquences? Ou bien notre histoire n'est-elle pas faite, et je dirais faite seulement, de la succession discontinue de ces moments critiques avec leurs tensions internes et leurs polarités intérieures ou mutuelles? C'est la dernière question sur laquelle je m'arrêterai et que je n'aurai évidemment pas le temps de développer. Elle me conduit, en conclusion, à faire deux séries de conclusions très rapides. Deux séries de conclusions très rapides sur la double série d'usages qu'il me semble indispensable de faire de Foucault, d'une part, je dirais, dans les ruptures entre les moments, et d'autre part, dans les relations entre les vivants. Dans les ruptures entre les moments, il faut s'appuyer sur Foucault. De deux façons, il me semble. D'abord, pour comprendre en effet que c'est seulement à travers les discontinuités que nous accédons à l'histoire, et à travers les discontinuités historiques que nous accédons au problème. D'autre part aussi, sur l'idée fondamentale que ces discontinuités historiques se définissent par des problèmes transversaux qui définissent précisément des moments de la problématisation de l'homme par lui-même, de la problématisation de nous-mêmes, disons, plus que le concept d'homme ici est évidemment problématique. Bien entendu, j'ajouterai que dans cet usage de Foucault, qui me paraît fondamental, il faudrait peut-être aussi repenser précisément les unités historiques pertinentes, ainsi que le statut des discours. Le statut des discours est-il, comme Foucault le voulait, toujours implicite, jamais explicite? Doit-il être cherché toujours dans le sous-sol des savoirs, dans l'archive, et jamais dans la réflexivité qui problématise sur le moment les problèmes philosophiques? C'est la question que je poserai dans mon usage, finalement, de Foucault dans une perspective, disons, de l'histoire de la philosophie autant que de philosophie de l'histoire. Du deuxième côté, du côté des relations entre les vivants, il me semble fondamental de comprendre que l'alternative n'est pas entre des relations pures et des relations de pouvoir, que l'alternative est toujours dans les relations de pouvoir, que les relations, toutes les relations sont des relations de pouvoir, et Foucault nous aura enseigné cela d'une manière, à mon avis, définitive. Mais dans ces relations de pouvoir, qu'il y ait des polarités critiques telles que les a pensées Foucault, que, par exemple, le soin soit déchiré entre un pouvoir médical et une technique du régime de soi-même, une technique de subjectivation et d'accès à l'autonomie, cela doit nous conduire à repenser les tensions intérieures, des problèmes qui aujourd'hui définissent le présent, j'allais dire, entre biopolitique et bioéthique, pour lesquels, je crois, l'usage de Foucault, l'usage critique de Foucault, mais aussi de ses contemporains, d'un moment qui a tourné autour de ces questions et qui nous les a légués d'une manière critique, à travers la discontinuité qui nous en sépare, à travers donc l'usage de Foucault, et donc, comme je le disais, plus nécessaire que jamais, et l'usage des alternatives de Foucault n'est pour nous aucunement une alternative. Enfin, il n'y a pas le choix. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'usage des alternatives de Foucault, j'allais dire, et voilà, on pourrait dire que c'est notre alternative. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Merci.